Au cours des informations forme et bien-être et informations concept que nous organisons, nos clients ou prospects émettent parfois des objections. Daniel Piestrac, expert reconnu en marketing et fondateur de la société DPMC, est intervenu sur ce sujet au congrès NL International 2009. Il nous explique les différentes techniques de réponse aux objections et nous donne les outils pour rassurer le prospect et accompagner le client.
Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on parle un petit peu des comportements des clients, bien sûr, des distributeurs, et de voir comment on peut changer ces comportements, comment on peut influencer ces comportements-là. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre quel est le schéma décisionnel. Le fonctionnement du cerveau humain, on sait aujourd'hui qu'il fonctionne de façon très simple, par comparaison. Il évalue ce qu'il perçoit de l'environnement et il prend des décisions en fonction de ce qui lui semble le plus pertinent. Les chercheurs ont beaucoup avancé donc sur ce sujet, notamment donc Alexandre Pouget, qui est de l'Université de Rochester, qui dit que le cerveau est une machine à calculer les probabilités des causes de ce qu'il perçoit. C'est-à-dire que quand on a une offre Bottissanée, une offre énergie diète, le cerveau tout d'un coup se dit « Tiens, c'est une offre intéressante, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça correspond vraiment à mon cas? Est-ce que ça va marcher ?» Il se pose plein de questions comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, souvent qu'arrivent les objections, par les questions que l'on se pose. Deuxième chose, donc, Jan LeCun, qui est au Centre de sciences neuronistes de New York, dit qu'en fait, les neurones encodent le calcul des probabilités. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence en évaluation de situation. Hein, c'est comme quand on conduit, vous avez une voiture qui arrive sur la droite, et vous dites, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va suffisamment vite? Est-ce que je dois freiner? Est-ce que je dois accélérer? Il y a cette évaluation qui se fait en permanence. Et la vente, c'est ça. Dans la vente, quand on a un client en face de soi, il nous évalue. Il évalue la probabilité qu'il a de faire avec nous une bonne affaire, c'est-à-dire de pouvoir que ce qu'on lui propose corresponde vraiment à ce dont il a besoin et à ce qui est nécessaire pour lui. Alors, le schéma décisionnel, en fait, comment fonctionne-t-il? Il est très simple. D'abord, vos clients donc, sont dans une situation. Alors, j'ai pris une situation au hasard, donc j'assiste à une information, par exemple, forme et bien-être. J'ai plusieurs solutions. Je peux acheter, je peux utiliser une autre méthode, je peux vous demander aussi si vous avez déjà un client qui a utilisé et s'il ne lui reste pas quelques boîtes pour les récupérer. Je peux vous dire, ben effectivement, je pèse 160 kilos, mais j'ai toujours été mince, donc je ne me rends pas compte. Donc vous voyez, il y a plusieurs solutions. Et enfin, quand on arrive à ces solutions, on les évalue. Avantage, inconvénient. L'avantage de la solution d'acheter, par exemple, c'est l'efficacité, la forme. L'inconvénient, c'est le prix. Éventuellement le lait, si je supporte un peu moins bien le lait. Et cet inconvénient du prix, ben, il va falloir que j'y réponde. Deuxième solution, utiliser une autre méthode. Ben, le prix peut-être est un peu moins cher, mais ça permet de se rassurer aussi. Et puis, l'inconvénient, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que c'est moins cher, mais est-ce que c'est efficace? On se méfie souvent aussi des choses qui ne sont pas assez chères. C'est ça qui est bizarre. Souvent, les gens nous disent, le prix, c'est cher, donc je me méfie, mais si on lui avait présenté un prix 5 ou 10 fois inférieur, il serait méfié aussi en disant, ouais, c'est pas très cher, ça ne doit pas être bon. C'est extraordinaire. Alors, on regardera tout à l'heure les réponses. Solution X, etc. Enfin, il y a plusieurs solutions. On va devoir faire un choix. Ce choix est très important. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est tout rejeter moins un, quand on est un peu dans les mathématiques. C'est-à-dire que c'est très angoissant de choisir. C'est anxiogène, comme on dit. Quand je choisis, est-ce que je suis sûr de prendre la bonne solution? Parce que chacune a des avantages et inconvénients, et je peux être hésitant. Alors, choisir, c'est une chose, mais il va falloir que je décide. Décider, c'est très important, et une décision, ça ne se remet pas en cause. Hein. Moi, j'ai décidé déjà, il y a assez longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'ai pris une décision importante, vraiment importante. J'ai pris la décision de faire un footing de 5 km tous les matins à 5 h du matin. Bon, je ne suis pas encore passé à l'acte. Mais ça ne va pas tarder. Donc, c'est la différence entre décider et agir. Je peux décider en vous disant, ah, écoutez, c'est décidé, c'est sûr. Je vais appliquer la méthode Botticelli. Je vais prendre... Et quand ? Ah, pas tout de suite, on verra plus tard. Je ne suis pas pressé. Et puis 10 ans plus tard, il est toujours là. Hein, on peut toujours discuter. Quoi. La conclusion, c'est l'action. Ce n'est pas la décision, c'est l'action. Donc, pour revenir à ça, sur le comportement donc, décisionnel, choisir, ce que je vous ai dit, c'est renoncer. Décider n'est pas agir. Agir, c'est passer à l'acte, c'est conclure. Donc c'est très très important. Et agir, conclure, est toujours quelque chose de difficile. Sur le plan affectif, on a une bonne relation avec son client, tout se passe bien, et tout d'un coup, il va falloir conclure la vente, on a l'impression que tout va s'arrêter. Qu'une fois que la conclusion est faite, la relation va changer. Et beaucoup hésitent à conclure et se contentent, je dirais, de la relation affective qui s'est développée pendant la vente, pendant l'entretien. Et c'est tellement agréable de parler de tout ça, des enfants, de l'amincissement, de la forme, du bien-être, etc. Tellement agréable qu'on oublie de conclure. Donc la conclusion est quelque chose d'important. Alors, pourquoi je vous montre tout ça ? Tout simplement pour vous montrer l'importance des questionnaires qui ont été mis en place, donc l'année dernière, que nous avons mis en place avec vous. Le schéma de décision, vous l'avez compris. Maintenant, le questionnaire, à quoi sert-il ? D'abord, à mieux connaître la situation de son client ou de son prospect. Tant que je ne connais pas la situation de mon prospect, c'est très difficile d'argumenter. Très difficile parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Moi, je me rappelle d'avoir vu au salon de l'auto un gentleman, je dirais, qui était en train de regarder une très très belle Jaguar. Et le vendeur lui dit, ah, je vois que vous voyez regarder la Jaguar, c'est une voiture extraordinaire. Faut que venez voir, je vais vous montrer. Il dit, mais l'acheteur dit avec son accent américain, no problème, j'achète. Ok, I buy it, no problem. J'achète. Non, mais avant d'acheter, je vais vous montrer, monsieur. Regardez le tableau de bord en loupe de noyer. C'est extraordinaire. On fait pousser les arbres sur des tuteurs incurvés pour que le tableau de bord soit incurvé naturellement. C'est ça, Jaguar. Vous comprenez la qualité Jaguar ? No problem. J'achète. I buy it. No problem. Mais attendez, c'est pas fini. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Regardez les cuirs. Les cuirs sont extraordinaires. Les vaches que nous utilisons sont élevées dans des prés où il n'y a pas de barbelés pour pas que le cuir soit abîmé. C'est ça, Jaguar, la qualité Jaguar. Ah, il dit, oh, so fantastic, it's great, I buy it, no problem, j'achète. Il dit, attends, venez voir la boîte à outils. Regardez, j'ouvre le coffre, il y a une boîte à outils avec une clé dynamométrique. La seule voiture au monde qui a une clé dynamométrique dans sa boîte à outils. Et là, l'Américain dit, oh, une boîte à outils, mais ça tombe en panne, je n'achète pas. Voilà. Donc, rien ne sert de sur-argumenter, il faut d'abord savoir où est sur quel terrain on est. Hein. Donc, deuxième chose, le questionnaire, il sert à crédibiliser la démarche du distributeur. Et derrière le distributeur, il y a une entreprise, il y a un comité scientifique, il y a des choses sérieuses, etc. C'est vrai que lorsque j'ai appelé un certain nombre d'entre vous, certains sont peut-être dans la salle, certains que j'ai appelés, que je verrai avec plaisir d'ailleurs tout à l'heure, ces personnes-là me disaient le questionnaire, c'est extraordinaire. Parce qu'effectivement, ça montre qu'il y a une organisation et que nous-mêmes, même si on n'est pas des diététiciens, des médecins patentés, nous avons derrière nous toute une organisation qui crédibilise la démarche. Et le questionnaire facilite, d'après ce qui m'a été dit par vos collègues, effectivement la vente. En plus, ça permet de se poser les bonnes questions. Faciliter la vente parce qu'elle agit sur la décision. Les questions sont faites de telle façon que plus je me pose des questions, vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, les questions agissent sur la pensée. Quand je vous pose une question, j'agis sur votre pensée. Hein? Donc si je vous demande à quelle heure on doit déjeuner, tout le monde est en train de se dire, mais si vous faites, c'est vrai, à quelle heure on doit déjeuner ? Bon, donc encore une fois, les questions sont très importantes, mais les réponses aussi. Et pour l'action, ça facilite le passage à l'acte. Donc le questionnaire est un outil extrêmement intéressant à utiliser dans l'entretien de vente. Le principe d'utilisation du questionnaire est très simple. Il y a deux questionnaires, enfin trois pour l'instant, trois questionnaires. Phase starter, phase transition. Le questionnaire, une fois posé, génère un courrier pour le client, et ce courrier à la fois le rassure, à la fois vous donne son ensemble d'arguments et de choses à discuter, et donc le questionnaire est une aide à la vente. Alors je vous montre un peu ce qu'on m'a dit. On m'a dit oui, le questionnaire ça facilite l'analyse de la personne, ça fidélise le client. En première approche, ça facilite la vie, ça nous conforte dans notre démarche, ça valorise le coaching parce qu'on est supervisé par Bottissané et par le comité scientifique, il en manque un petit bout. Le client se sent suivi, il sait qu'on a plus qu'en plus de déconseiller, il y a une société derrière, etc. Et je me rappelle, l'un d'entre vous, avec un magnifique accent méridional, me disait au téléphone, « Ah, le questionnaire, mais c'est merveilleux, mais ça facilite la vente. » Vous ne vous rendez pas compte. Le client, il le remplit, et après la vente, elle va tout seul. Alors, je ne sais plus, je me rappelle du nom, j'espère que je verrai ce monsieur tout à l'heure, après mon intervention, mais effectivement, même si c'est très imagé, c'est tout ce que les distributeurs que j'ai contactés m'ont dit, en fait. Donc, c'est vraiment un outil à utiliser. Autre chose, poser des questions pour quoi faire, je vous l'avais déjà dit, poser des questions, c'est agir sur sa pensée. C'est le faire réfléchir, c'est le conforter dans la crédibilité de la démarche, c'est le valoriser, c'est le rassurer. Les questions, quand on les pose, montrent qu'on s'intéresse à l'autre. C'est une relation affective. C'est-à-dire, ça lui montre que je l'aime bien, que je le considère, et que je le considère tellement que je lui pose des questions. Donc, il est très important de poser des questions. Quand un certain nombre d'entre vous me posent des questions, personnellement, je me sens valorisé. C'est pour ça que je suis si bien avec vous, d'ailleurs. Chaque fois que je viens, c'est avec un grand plaisir, et toute cette partie affective, ce partage affectif, que je partage avec vous, avec vos dirigeants, avec Michel Labazor, avec Jean-Claude, et avec Gérard Toiti, qui va bientôt intervenir, qui est aussi un spécialiste de la vente directe, avec Vente Directe Magazine. Toute cette partie affective compte énormément dans la vie de tout le monde. C'est 80% de la vente, l'affectif. C'est 80%, les techniques de vente, c'est 20%. Donc, encore une fois, ça permet aussi de faire évoluer les gens. Alors, quelques résultats très rapides. À quoi les résultats sont attribués? Alors ça, c'est les derniers tris que nous avons faits, juste avant notre congrès. 37% disent que c'est grâce à la qualité des produits Bottissané que les résultats sont là. 35% l'efficacité de la méthode, et donc votre efficacité en tant que conseiller, en tant que coach. Et 26% sa propre volonté. Donc vous voyez que les produits et votre rôle sont primordiales. Hein, c'est 74% des raisons de réussite, les trois quarts de la réussite viennent des produits et de votre intervention. La satisfaction et les motivations au maintien. La motivation au maintien est essentiellement tournée vers la forme et le bien-être. Et ça, c'est une grande victoire que vous avez pu remporter. Pourquoi ? Parce que au départ, un grand nombre de clients se disent c'est une méthode pour mincir. C'est vrai. Mais c'est aussi une méthode pour se sentir mieux. Et quand vous voyez que 70% de vos clients disent je veux maintenir parce que je veux me sentir en forme, je veux du bien-être, je veux garder un bon sommeil, etc., ça veut dire que la méthode et les produits sont allés au-delà de la première motivation souvent exprimée, qui est simplement perdre un peu de poids. Ce sont des produits qui dépassent de beaucoup cette première motivation et qui pourtant sont efficaces dans tous ces domaines. La fidélisation, donc on avait deux questionnaires, un questionnaire fidélisation et un questionnaire suivi. Regardez, Bottissané, 98% sont satisfaits ou très satisfaits et le suivi, c'est ce qu'on appelle la rémanence. C'est-à-dire qu'ils ont déjà utilisé la méthode, ça fait plusieurs mois qu'ils sont clients chez vous, et il y en a encore 95% qui se disent satisfaits. Ça, c'est rare. En général, l'effet de rémanence est beaucoup plus bas. Quand on a une satisfaction sur des produits comme ceux de L'Oréal ou autres, on a souvent du 88-90%, on n'a pas vos scores, mais derrière, la rémanence est 60%. Là, on a juste 98, on descend à 95. C'est vraiment un très bon résultat que vous avez obtenu, parce que c'est vous qui obtenez tout ça. Encore une fois, rappelez-vous, 35% trouvent que la méthode, le conseil, le coach est important. Et pareil, sur l'énergie diète, 97% de satisfaits, 93% de rémanence. Donc on a des scores extrêmement élevés sur un nombre de questionnaires très, 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 très fort. Donc vraiment sans aucune contestation. L'avantage des questionnaires, d'une part, c'est que les paroles s'envolent et les écrits restent. Le client Donc, écrit, pour prendre conscience et pouvoir se référer à son écrit, il optimise ses chances de réussite. Pour le distributeur, ça renforce l'efficacité du programme, ça facilite le passage à l'étape du maintien, puis ça crédibilise énormément, bien sûr. Et pour l'ensemble des distributeurs, le fait de consolider les résultats nous permet de faire ce genre de mesures. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça c'est vrai, c'est bien, mais ça n'empêche pas que sur le terrain, c'est pas si facile que ça. On a des clients, de temps en temps, c'est rare, mais enfin, ils nous font quelques objections. Il n'y a pas beaucoup qui vous disent c'est cher, ça, je pense pas, Bon. Mais de temps en temps, quand même, c'est dommage, faudrait qu'on puisse répondre. Alors, les objections, c'est quelque chose d'important. Moi, j'adore quand j'ai une objection d'un client. Il y a quelquefois des commerciaux, ils disent, mais quand j'ai une objection, je suis malade, je me dis, il ne m'aime plus, il ne veut plus mes produits, je vais le perdre. Pas du tout, l'objection, c'est un client de gagner. C'est-à-dire qu'on objecte que lorsque l'on pense que l'on va pouvoir acheter. C'est une défense, c'est une réaction de défense naturelle. Il est évident que si je commence à trouver que c'est cher, c'est parce que j'envisage que je peux l'acheter, je regarde mon budget, je me dis, tiens, c'est quand même pas donné, est-ce que je peux me l'offrir ou pas ? Est-ce que je peux négocier ? Est-ce que je peux trouver quelque chose de moins cher ? En tous les cas, la question que je me pose montre que je suis intéressé. Sinon, je vous dis simplement, écoutez, je ne suis pas intéressé, merci beaucoup, au revoir. Donc, toutes les objections, c'est le dernier rempart avant la conclusion. C'est pour ça que c'est très agréable d'avoir une objection, parce que je me dis, dans 5 minutes, dans 10 minutes, on va pouvoir conclure. Voilà, ça me rappelle ma jeunesse, quand on avait quelques objections, des jeunes filles, enfin bon. Allez. Je me laisse aller. Bon, l'objection donc, est un mécanisme de défense. Objecter, ça vient du latin objectare, qui veut dire mettre en avant, opposer, jeter. On objecte, c'est une réaction de défense, je jette en avant. Quand quelqu'un émet une objection, ce que je vous dis, c'est qu'il vous a écouté, qu'il accepte de dialoguer, et qu'il a envisagé d'être convaincu. C'est pour ça qu'il a cette réaction de défense. Les objections peuvent être sincères. Ou non. Quelquefois, il y a ce qu'on appelle des objections fausses barbes. Quelqu'un vous dit « Oh, faut que j'en parle à ma femme. » Hein ? Ou alors, faut que j'en parle à mon mari, pour les femmes, bien sûr. Alors ça, c'est quelquefois vrai, puis quelquefois, c'est une façon de pas oser vous dire non, mais de se dire « Bon, comme ça, je vais m'en débarrasser. » On verra, il y a des réponses pour ça, bien sûr. Quand elles ne sont pas sincères, il faut chercher ce qu'il y a derrière. Les objections traduisent une certaine angoisse. Et en fait, comme on le voit sur ce schéma, le choix, au moment du choix, où je vais faire le choix entre mes solutions, vous vous rappelez tout à l'heure, j'évalue des solutions, j'ai évalué la vôtre, donc j'ai des objections par rapport aux inconvénients que je pense de la méthode. Par exemple, le prix, par exemple, le lait, par exemple, le fait que c'est de la poudre, etc. Alors, toutes ces objections, elles arrivent parce que pour moi, c'était des inconvénients. Elles constituent le dernier rempart. Et par rapport au passage à l'acte. Donc, quand j'ai des objections, naturellement, elles constituent des freins, mais elles traduisent surtout des craintes. Quelqu'un qui objecte, c'est quelqu'un qui a peur, qui a une angoisse. Ils disent, bon, c'est cher, ça va me coûter cher, comment je vais faire, est-ce que j'ai le budget, etc., etc. Les réponses, elles font pencher vers la conclusion. À partir du moment où on montre, d'une part, le résultat, où les réponses sont concrètes, c'est-à-dire qu'on a des réponses avec... qui agissent naturellement sur les motivations, mais qui agissent aussi sur la réduction de la crainte. Et enfin, naturellement, sur les bénéfices de tout ce qu'il va remporter, qui va le faire rêver. Ce qui transporte, c'est l'espoir. Ce qui fait agir, c'est ce qui se passe devant nous, pas le passé. C'est l'espoir, c'est l'atteinte d'un but, d'un objectif. Alors, les leviers d'action sont simples. La situation dans laquelle évoluent nos prospects et nos clients impacte pour 50% dans les comportements. Ça, on le sait depuis longtemps, en tant que comportementaliste. Donc, votre attitude est importante. Quand on est face à un client et que le client vous dit « c'est cher », et que je lui dis vous êtes le troisième aujourd'hui, vous voyez, à me dire ça. Ah oui, non, puis je leur ai dit. Moi, alors là, je leur dis à chaque fois, et puis ils veulent pas baisser. Non, mais vous avez raison, moi, je comprends, Moi-même, d'ailleurs, je me demande... Donc, il est évident que si j'ai une attitude de ce type-là, très craintive, hésitante, etc., lorsqu'on a une objection de ce type-là, effectivement, il faut pouvoir répondre tout de suite, avec force, naturellement, en disant, écoutez, c'est cher, Allez. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous... Alors ça, c'est la technique de domination. Je vous montrerai tout à l'heure différentes techniques. Mais une des techniques pour répondre à cette objection-là, il y en a plusieurs. Vous allez bientôt avoir un guide, dont j'ai repris quelques visuels, dans lequel vous allez avoir 40 pages de réponses justement à toutes ces objections que nous avons argumentées. Merci, merci. Voilà, donc ce guide, nous l'avons travaillé avec vos distributeurs et on a adopté les réponses en y mélangeant nos techniques comportementales, où on sait que ça agit, qu'il y a une influence réelle avec un impact, et puis le vocabulaire de l'ensemble qui est propre à votre métier, aux produits que vous avez et au type de client. Donc, encore une fois, vous allez voir l'attitude de jouer. Si je prends une attitude un peu dominante en disant, écoutez, je comprends ce que vous dites, je comprends, et moi-même je le pensais au départ, mais je vous assure, regardez, des produits de Cipla, avec les résultats que nous avons, la qualité, le comité scientifique, le sérieux de la recherche, les actifs, en pharmacie, il vaudrait au moins 5 à 600 euros. Au moins 5 à 600 euros. Grâce à la vente directe, c'est-à-dire un circuit court, sans marge intermédiaire de 40 intermédiaires, vous avez pour 250 euros. C'est-à-dire que vous avez 50% de remise, 50% moins cher que ce que vous le trouveriez dans d'autres circuits. Déjà, j'ai relativisé le prix. Alors, il y a d'autres techniques. Hein, vous allez voir, il y a trois pages sur le prix. Hein, on a fait trois ou quatre pages parce qu'il y a pas mal de possibilités sur le prix. Je vous en donne une quand ça correspond à ce que le client pense. Mais il y a d'autres choses qui sont derrière le prix. Le questionnaire et le courrier de confirmation qui renforcent naturellement la perception de sérieux et qui réduit aussi l'écart de prix. Parce que quand on voit tout le sérieux qu'il y a derrière, la confirmation par courrier, etc., du coup, un prix est toujours analysé par rapport à une offre. C'est un rapport qualité-prix. Offre-prix, bénéfice-prix, résultat-prix, c'est ça que le consommateur juge. Hein, donc on le voit très bien dans tous les produits, y compris les vôtres. Ensuite, donc, les réponses, l'attitude, la pertinence des réponses, bien sûr, constituent une étape très importante dans la vente, puisque je vais pouvoir conclure derrière. Et n'oubliez pas de conclure. Moi, à chaque fois que j'ai une objection, je finis sur une question, toujours. Et je leur dis, vous voyez, donc vous avez, comme je vous l'ai dit, 50% d'écart avec ce que voudrait ce genre de méthode et de produit en pharmacie. 50%, c'est énorme, on est bien d'accord. Alors, vous commencez quand? Voilà, donc ça permet d'aller... Alors, là, je suis un peu direct, vous avez d'autres questions. Hein, vous préférez commencer la semaine prochaine, plus tard. Vous souhaitez quel type de saveur dans les produits, etc. Mais finir toujours par une question, n'oubliez jamais. Pourquoi? Parce qu'une objection n'appelle une autre. Quelqu'un qui vous fait une objection, je lui ai répondu, mais il est encore un peu angoissé. Il pense encore à l'angoisse. Donc il vous en sort une autre. Il dit, bon, le prix peut-être, mais quand même, c'est de la poudre. Hein. Ouais, ben, j'en ai une deuxième à me taper, là. Allez, la poudre. Ah, c'est une objection intéressante. Bon. Bref, lorsque j'ai ces objections-là, quand je pars par une question, je diminue le nombre d'objections qui arrivent après. Donc n'oubliez jamais de poser une question et d'essayer de conclure. Il y a des croyances qui ont la peau dure. Le fait de répondre aux questionnaires, pour terminer sur les questionnaires, permet d'éviter certaines objections. Les croyances, par exemple, comme les commerciaux racontent n'importe quoi pour vendre. Vous l'avez déjà entendu, ça? Moi, quelquefois, des clients me disent « Ah, franchement, vous êtes un bon commercial. » Et moi, je leur dis surtout pas. Je leur dis « Écoutez, ça, vous êtes bien le seul à le penser. Moi, j'ai surtout de très, très bons produits. J'ai aucun mérite à les vendre. J'ai des produits tellement extraordinaires, je veux dire que les gens l'achètent, mais ça serait quelqu'un d'autre, ça serait pareil. Pourquoi? Parce que si j'accepte ce compliment, si je l'accepte, parce que ça me fait plaisir quand même, hein, au fond de moi, je suis comme tout le monde, mais si j'accepte ça, ça veut dire que mes produits ne sont pas bons, que je pourrais vendre n'importe quoi, donc que je suis en train d'arnaquer, ce qui n'est pas vrai. J'ai des produits qui sont excellents. Si je me mets en arrière derrière mes produits, le client se rassure en disant, mais effectivement, c'est des produits fantastiques, c'est un bon commerce. Mais c'est parce qu'il a des bons produits. Il ne pourrait pas me vendre n'importe quoi. Et c'est ça la force de la conclusion. Bien. Donc, l'objection, c'est un mécanisme de défense. Vous verrez, il y a plusieurs pages, il y a 40 pages hein, dans le guide, hein, donc vous avez le temps de voir. Trois techniques de base, domination, contournement, paradoxe. C'est des techniques vraiment très basiques que j'utilise personnellement depuis 30 ans. Ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le commercial, dans la vente. Même si j'ai une boîte d'études et de marketing, je vends mes prestations, on continue à les vendre. On est dans une année de crise, on a une croissance de pratiquement 60% de notre chiffre d'affaires cette année, parce que nos confrères font faillite, donc on récupère pas mal de contrats. Ce qui est quand même plus facile. Donc, je peux vous dire que le commercial, je ne suis pas un très bon commercial, mais j'en ai vu beaucoup, j'ai tourné avec beaucoup de commerciaux dans ma vie. Et effectivement, c'est trois techniques qui sont des techniques basiques, de base, importantes. Un exemple très vite pour l'IFBE, le contournement, par exemple. Quelqu'un qui vous dit « je déjeune souvent à l'extérieur », ce n'est pas évident de casser une first starter. Il faut toujours dire « je comprends ». Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le client pense que ce qu'il dit est intelligent. C'est important qu'il se sente intelligent quand même. En lui disant « vous avez raison ». Tout à fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui font des repas d'affaires qui ont pensé comme vous. Et vous savez la solution qu'ils ont trouvée ? Toute simple. Commencez le vendredi. La fast starter fait 3 à 4 jours, entre 3 et 5 jours. Vendredi, vous avez une première journée. Samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Si lundi, vous évitez un repas d'affaires, ça fait déjà 4 jours. Votre fast starter est pratiquement terminée. Donc, et ensuite, vous allez pouvoir accompagner naturellement tout cela par quelques agréments, en prenant quelques plats. Je vais vous donner quelques recettes, quelques conseils sur les plats à choisir dans les restaurants qui vont avec la fast starter à partir du 4e jour. Donc, c'est important que les gens toujours se sentent compris. Je vous ai compris. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Rappelez-vous de Gaulle. Il a dit « Je vous ai compris ». Vous vous rappelez, en Algérie, en 58, il n'a jamais dit qu'il était d'accord. Alors tout le monde a pensé qu'il était d'accord, ben voilà ce qui s'est passé. Quoi. Donc bien faire la différence entre comprendre et être d'accord. Une objection, par exemple, pour les IC, donc les informations concepts, je ne mélange pas les affaires et l'amitié, vous comprenez ? Ah ben écoutez, je ne peux pas mélanger les affaires et l'amitié. L'amitié c'est une chose, les affaires c'est une autre. C'est naturel. Alors j'ai dit, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Personnellement, je ne mélange jamais les deux. Par contre, juste une question. Si vous obteniez 20% de remis chez Mercedes, vous le diriez à vos amis ? Oh ben naturellement. Vous comprenez, on obtient rarement 9, alors 20, vous comprenez bien que je le dirais. Mais pourquoi vous le diriez ? Parce que vous feriez partager une bonne affaire. Vous avez bénéficié de quelque chose de fantastique, vous allez le partager. Là, c'est pareil. En fait, lorsqu'on a la chance de vouloir... distribuer, de vouloir organiser des réunions, de faire partager ses convictions concernant les résultats, l'efficacité des produits Botticelli, de la méthode Botticelli, des produits énergétiques. Quand on a toute cette conviction en soi, on n'a qu'une envie, c'est de la partager. Mais d'abord, effectivement, il faut que vous soyez convaincu. Pour ça, vous avez vu les résultats vous-même, donc maintenant vous pouvez démarrer. Donc, bien sûr, ce sont des exemples de réponses, il y en a d'autres dans le guide, mais vous allez voir que toutes les objections ont des réponses naturelles et efficaces. Prenez vraiment la technique, c'est « je vous comprends, je prends en charge, je vous comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Je donne ma réponse, je conclue par une question. » Voilà, donc les spécificités des deux types de réunions, c'est que l'information informée bien-être, il faut donner envie d'utiliser les produits et le programme. Mais l'information concept, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut donner envie d'augmenter ses revenus et de construire son entreprise. Dans les deux cas, il faut donner envie. D'une part, donner envie d'utiliser les produits, mais d'autre part, de donner envie de faire partager ses convictions aux autres. C'est deux choses différentes. OK ? Donc, petite conclusion rapide et magique. Je l'aime bien, ce petit Merlin qui tape dans les mains, parce que la conclusion et la vente, c'est magique, surtout chez vous. Moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé mais de vendre et d'être distributeur. J'en rêve depuis très longtemps. Mais je sais que c'est très dur. C'est un dur métier. Enfin, si avec tous ces outils-là, j'ai peut-être quand même laissé faire. Hein. Alors, première chose en termes de conclusion, c'est le niveau d'activité qui produit la performance. N'oubliez jamais une chose. Si je fais 2 réunions par mois et que je fais 3 ventes, si j'en fais 4, je ferai 6 ventes, sans augmenter ma performance, sans rien augmenter. Le niveau d'activité est très important. Deuxième chose, c'est la qualité des relations qui produit la fidélité. Un client, la fidélité, il y a plusieurs types de fidélité, il y en a 4, hein, mais il y en a une la plus forte, la plus élevée en hiérarchie, c'est la fidélité affective. Quand on aime, on ne compte pas, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand j'aime, quand j'ai envie de travailler avec quelqu'un, quand j'ai envie de lui faire plaisir, là je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices, à m'investir, à m'impliquer pour pouvoir pour tenir cette relation. C'est la qualité de la relation qui produit la fidélité. C'est l'implication par rapport au produit et à sa société qui produit la force de conviction. Je ne pourrai convaincre que si je suis convaincu et si je suis dans une bonne entreprise avec de bons produits. Alors comme c'est le cas Ici, il est évident que vous n'aurez pas beaucoup de mal à convaincre, à partager vos convictions et naturellement à réaliser vos objectifs. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci encore.